Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Alors que ce vendredi se termine en douceur, il est l'heure de nous retrouver sur cette libre antenne sur laquelle je suis ravie d'entendre chaque week-end que nous abordons de plus en plus de sujets différents. La solitude et les chagrins d'amour bien sûr, mais ici nous parlons aussi de vos difficultés à vous éloigner de la cigarette ou de la nourriture, de vos angoisses, de vos phobies, de vos problèmes pour avoir un enfant, de votre peur de ne pas être un bon parent, de vos relations avec vos propres parents aussi. Nous abordons le stress, les angoisses, le manque de confiance, nous parlons sans tabou de la mort et de la difficulté à surmonter nos deuils face à ceux qui ne savent pas à quoi faire de notre tristesse. Nous parlons aussi des problèmes de sommeil, de nos nuits hachées, du comportement des autres, des trahisons, des injustices, des abandons. Bref, nous parlons de tout ce qui fait la vie. Et je suis ravie de voir que chaque week-end, nous avons de plus en plus de jeunes qui nous appellent, des jeunes qui prennent exemple sur leurs aînés et qui comprennent à quel point il est important de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Important d'oser sortir de sa bulle pour parler de ses problèmes. Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul au monde finalement et que nombreux sont les autres qui sont confrontés aux mêmes difficultés que nous dans la vie. C'est pour ça que la Libre Antenne est une grande famille dont les membres ont tous les âges et où chacun apporte ce qu'il est en fonction de son expérience. Pour entrer dans cette grande famille et venir nous parler de ce qui vous préoccupe en ce moment, vous appelez simplement le 3921. Au bout du fil, vous aurez Hassan ou Oscar qui vous guideront ensuite jusqu'à moi avec toute leur bienveillance. Et puis pour participer à l'émission, vous savez que vous pouvez comme chaque soir envoyer des SMS au 73921 en commençant bien par le mot « nuit ». Des SMS pour proposer une solution, apporter une idée ou simplement un soutien. Je transmettrai tous les messages constructifs à la personne qui témoigne à l'antenne. À la réalisation ce soir, Fabrice Fougerouze. Et si tout le monde est prêt, la Libre Antenne, ça commence dans un tout petit instant.
23h, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et le premier appel que je prends ce soir, c'est celui de Gaël. Bonsoir à vous, Gaël.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Alors, quelle est la raison de votre appel ?
Alors voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis victime avec ma fille de d'exclusion parentale et familiale. Mmh. C'est-à-dire que j'ai rencontré la main de ma fille en 2002. On a eu une enfant en 2009. Et en 2011, la main de ma fille, qui est polonaise, est partie à l'étranger pour ce qui devait être des vacances. Et arrivée là-bas, elle m'a dit « je reste ici ». Voilà, donc ça a été le début d'un cauchemar jusqu'à aujourd'hui, qui continue.
Vous n'avez rien vu venir à l'époque ?
Alors non, en fait, au début je ne comprenais pas, j'essayais de sauver notre couple, j'essayais de sauver ce qui me paraissait être quelque chose, un projet d'avenir familial. Et en fait, plus j'essayais, plus je me suis embourbé dans ses mensonges à elle et dans sa stratégie en fait. Parce que moi, j'étais un affect et j'ai compris après qu'elle ne l'était pas. Voilà. Et je l'ai découvert petit à petit, notamment en lisant les très bons livres de Marie-France Hérégoyen, Le harcèlement moral et Abus, faiblesse, autre manipulation. Mmh. Où là, je me suis dit, mais comment elle connaît ma vie ? C'est ce que je vis qui est écrit dans le livre. Quoi,
voilà. Vous êtes reconnu dans chaque phrase.
Voilà, je me suis reconnu dans cet ouvrage, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, j'ai depuis créé une association d'aide aux victimes d'exclusion parentale et familiale, oui. Et beaucoup de personnes se retrouvent parce que dans l'exclusion parentale et familiale, le parent qui organise l'exclusion souffre d'une perversion comportementale, voilà, et nous justement on essaie de faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils leur apportent un peu de soutien dans notre association droits du parent et de l'enfant.
Alors juste pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, cette femme vous l'avez rencontrée comment au départ ?
Alors, je l'ai rencontré à Paris, rue de Rivoli, au 59 rue de Rivoli. C'était un squat d'artistes à l'époque qui a été légalisé par la mairie de Paris ensuite. Mmh. Et donc, il était ouvert au public et il se trouve qu'on était tous les deux visiteurs en même temps et qu'on s'est adressé la parole. Et voilà,
d'accord, donc une rencontre assez classique au départ.
Très classique, ouais, c'est assez classique.
D'accord.
Elle était venue comme jeune fille au pair pour 6 mois en France. Voilà.
Mmh. Et ensuite, vous avez vécu quelques années avant de faire un enfant.
Voilà, on a vécu de 2002 jusqu'à 2011 ensemble, et on a eu notre fille en 2009.
Enfant désiré, j'imagine ?
Pardon ?
Enfant désiré, j'imagine ?
Alors, enfant désiré pour moi, pour elle, j'ai jamais trop su. Elle a toujours eu un discours très ambigu. Mais donc, je ne pourrais pas vraiment répondre pour elle, mais pour moi, oui, enfant désiré, tout à fait, oui.
Est-ce qu'elle a changé quand la petite est née ?
Alors, en fait, quand la petite est née, il y avait déjà des conflits entre nous. Elle faisait déjà envers moi du chantage affectif, du chantage pour tout, pour les moindres événements de la vie. Elle essayait de... Enfin, on allait dans une soirée, ça se passait très bien. Puis après, elle rentrait à la maison, c'était que des critiques, c'était rien n'allait, alors que pendant la soirée, tout allait bien, en fait. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était...
C'est le côté pervers, ça, ouais.
Du côté pervers, tout à fait, voilà, ouais. Exactement. Et donc après, quand elle est allée là-bas, en Pologne, moi, devant le fait accompli, je lui ai proposé une proposition de garde en Pologne avec des vacances auprès de moi. Voilà, je n'ai pas lui proposer la garde complète en France, sachant qu'elle avait refusé.
Attendez, racontez-moi quand même un peu plus en détail. Vous me dites qu'un jour, elle part en vacances.
Oui,
en tout cas, ce que vous prenez pour des vacances, elle prend la petite sous le bras.
Voilà.
Et là, qu'est-ce qui se passe ? Combien de jours se passent avant que vous commenciez à comprendre qu'il y a un problème ?
Alors, c'est très rapide, puisqu'en fait, dans la semaine qui suit son arrivée en Pologne, elle me dit « on reste ici avec la petite ».
Ah oui, voilà. D'accord. Donc, elle ne disparaît pas vraiment. Elle vous fait comprendre que c'est terminé, quoi.
Ah oui, elle fait comprendre directement. C'est très, très rapide. C'est très, très rapide. Et moi, je reste complètement abasourdi. J'y vais à la date qui était prévue, parce que je devais la rejoindre là-bas pour les vacances que j'avais. Moi, je travaille, j'étais le seul à travailler. Donc, j'y vais à la date en question. Et en fait, j'arrive dans une situation complètement absurde où en fait, tout est bloqué, pas question de revenir en France, voilà.
Et votre fille avait quel âge à ce moment-là ?
Elle avait 1 an et demi.
Oui, donc elle n'était pas encore scolarisée.
Elle n'était pas encore
donc
scolarisée.
Donc elle n'avait pas de compte à rendre à l'école ni à qui que ce soit, en fait.
Non, pas du tout. Bon. Après, maintenant, ma fille va avoir 10 ans, là, samedi qui vient, ce samedi. Depuis, elle n'est jamais revenue en France, elle ne parle pas le français, elle ne connaît pas la France, elle ne connaît pas sa famille française. Et pourtant, j'ai fait toutes les procédures. Alors, la mère de ma fille a commencé une première procédure pour définir le domicile principal de l'enfant.
Oui.
Puis, quand j'ai pu faire appel, parce que le domicile a été fixé auprès de la mère, quand j'ai eu une période pour faire appel, moi, j'essayais encore de sauver ce que je pensais être notre couple. Donc, je lui ai proposé de venir seule en France pour voir où on en était. Elle s'est réconciliée avec moi le temps que je puisse plus faire appel. Et puis, une fois qu'elle ne pouvait plus faire appel, elle m'a dit « je t'ai dit que je rentrais, mais en fait, je ne rentre pas, on reste en Pologne. »
Ah oui, même là, elle vous a manipulé.
Même là, voilà. Ouais. Et donc, alors, c'est assez classique parce qu'en fait, une personne qui est manipulatrice joue tout le temps et de la séduction et de la gentillesse et en même temps avec des objectifs pervers en fait derrière.
Ah, c'est la
donc
vie.
C'est très difficile à déceler.
Et la carotte et le bâton en permanence, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Et puis, c'est pas du tout le dessin animé où le méchant est moche et agressif. Et, c'est tout le contraire. C'est, voilà. Donc,
si les gens qui étaient pervers ou narcissiques étaient désagréables, ça serait plus facile de les repérer.
Voilà, c'est le monde dirait mieux, c'est clair, oui. Voilà, tout à fait.
Ils ont un masque très, très aimable en surface.
Voilà, tout à fait. Et souvent, ils ont un réseau, c'était le cas de la mère de ma fille, elle avait un réseau social très étoffé, elle était investie dans des associations artistiques, d'aide aux personnes, enfin voilà, c'était vraiment... pour moi, tous les voyants étaient au vert. Voilà. Mais en fait, c'était beaucoup de la présentation.
Comment vous avez organisé les choses alors à partir de là, quand la petite avait un an ?
Alors, j'ai essayé de trouver une solution amiable avec la mère de ma fille, en vain. Donc, j'ai perdu plusieurs mois. Après, j'ai engagé une procédure pour avoir des vacances en France. Le tribunal, après plusieurs mois, a rejeté ma proposition. C'était leur liberté, mais ils n'ont même pas dit comment je pouvais voir ma fille, dans quelles conditions. Donc, alors, c'était une obligation légale pourtant. Donc, j'ai eu d'autres solutions que de faire appel. Et en appel, j'ai obtenu en septembre 2015 une décision qui me permettait de voir ma fille dans des conditions complètement effroyables.
C'est-à-dire avec tierce personne ?
C'est-à-dire que je voyais ma fille enfermée dans une pièce. Alors, c'était même pas une personne tierce, parce que c'était enfermée dans la pièce de la maison où habitait la mère de ma fille avec sa mère, elle, avec la grand-mère de l'enfant. Donc, enfermée dans la maison de l'ex-belle-famille, dans une pièce. Le premier week-end de chaque mois, le vendredi de 17h à 19h. Le samedi de 10h à 19h avec 4 heures de sortie. Le dimanche de 10h à 18h avec 4 heures de sortie. Et 21 jours en juillet, du 1er au 21 juillet, de 9h à 19h tous les jours avec 4 heures de sortie. Donc ça, c'est la décision en appel du tribunal polonais. Oui. Donc c'est une décision qui est très violente, qui est perverse, qui organise une hiérarchie entre les parents. qui place un des parents sous le contrôle de l'autre, qui place l'enfant au cœur du conflit. Donc, au cœur du conflit, moi je suis pas en conflit avec la mère de ma fille, mais au cœur du conflit créé par un des parents. Et cette décision était vraiment un enfer pour moi. En fait, a posteriori, j'ai mis les mots dessus de ce que l'on appelle un traitement inhumain. Ouais. Parce qu'il s'est trouvé que la mère de ma fille m'a agressé plusieurs fois.
Physiquement ou verbalement ?
Les deux, verbalement et physiquement.
Ouais. Pardon. Ouais, je vous sens très ému, Gaël, par tout ça. Comment vous avez réussi à tenir debout ? Qu'est-ce qui vous a permis de...
Qu'est-ce qui fait qu'on tient de vous? Ça, je ne sais pas trop. Surtout quand vous êtes agressé en présence de votre enfant, c'est très compliqué à gérer.
Ouais.
Que la mère de ma fille souvent m'empêchait de voir ma fille. Elle n'a pas respecté de nombreuses sorties et de nombreux contacts. Elle n'a jamais été inquiétée pour ça. Même si le tribunal disait qu'il y avait des amendes, ça n'a jamais été appliqué.
Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes un homme ou c'est parce que c'est quelqu'un de son pays qui a géré ça?
Alors, je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, nous avons des justices. Au niveau mondial et au niveau européen, qui sont très conservatrices. Et il y a des juges qui sont modernes et des juges qui sont conservateurs, c'est la majorité. Et beaucoup considèrent que le rôle naturel, entre guillemets, de la femme, ce serait de s'occuper des enfants et le rôle naturel, entre guillemets, de l'homme, ce serait de payer des subsides financiers. C'est une représentation très 19e siècle. Aujourd'hui, on sait très bien que les deux parents sont nécessaires à la construction personnelle et psychologique de l'enfant, qui sont fondamentaux dans cette construction-là, qu'ils apportent tous les deux un sentiment de bien-être et de sécurité à l'enfant. Il n'y a pas un primary caregiver, comme certains théoriciens le prétendent, pour défendre justement des visions anciennes. Les deux parents sont importants, voilà, pour l'enfant. Donc, déjà, le fait que je sois un homme, que je sois un père, a peut-être participé à ça. Oui. Après, il y a le fait aussi que je suis à l'étranger, en Pologne. Voilà. Et ça, malheureusement, beaucoup de pays, la France également, l'Allemagne également, ont tendance à favoriser leurs ressortissants.
Oui.
Et d'ailleurs, au niveau européen, je pense qu'il serait bien qu'on ait une cour européenne de la justice familiale pour qu'il y ait une cour indépendante de la justice nationale
qui juge ces affaires-là,
parce que ce n'est pas possible autrement.
Oui.
Parce que c'est... Là, chaque pays défend son ressortissant, en fait.
Mmh.
Donc ça a duré pendant de 2014 jusqu'à 2018. Et au début, quand la mère ne respectait pas les décisions, j'appelais la police. Au début, ils sont un petit peu déplacés. Puis très rapidement, ils ne sont plus déplacés du tout. J'ai appelé le 112 sans aucune aide extérieure. Donc là, vous vous trouvez complètement isolé, dans une situation dramatique. Et vous ne savez plus quoi faire.
Oui.
Et avec votre enfant au milieu.
Qui était là à ce moment-là autour de vous? Qui vous a soutenu?
Alors, en fait, moi, j'ai eu ma famille qui était là.
Oui.
J'ai eu des amis qui étaient là. Et je les remercie tous.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous n'étiez pas seul dans ce combat. C'est important, ça.
Voilà, j'étais pas seul.
Ouais.
Et justement, l'idée de... En fait, au début, j'ai pas créé une association. J'ai créé une page aujourd'hui par année de l'enfant. Puis rapidement, elle a été suivie par beaucoup de monde. On est suivi par plus de 7100 personnes aujourd'hui.
Une page qui s'appelait comment, pardon ?
Droit du parent et de l'enfant.
Droit du parent et de l'enfant, d'accord.
Voilà, c'est une association maintenant.
Oui.
Et donc l'idée, c'était d'entendre les victimes et leur dire, vous n'êtes pas seul. Et ce que vous vivez, c'est une violence extrême. Mais c'est une violence qui n'est pas que faite par votre ex-conjoint, père ou mère. C'est une violence qui est aussi faite par la société.
Par
le système. Il y a une indifférence complète à la situation dramatique des enfants. Parce que nous, on souffre, on est adulte. On peut avoir des mécanismes de protection et on peut avoir conscience de ce mécanisme. Un enfant, il n'a pas conscience que la situation dans laquelle il est anormale.
Bien sûr.
Et ça, c'est très, très déstructurant pour l'enfant et très dangereux pour son devenir futur. D'autant plus que cet enfant-là, dans l'exclusion parentale, il va se construire avec un parent qui est manipulateur. Il peut lui-même devenir manipulateur. C'est-à-dire qu'on va, on va reproduire et on reproduit régulièrement ces mêmes schémas. Voilà.
Ou pas, ça dépend de comment il grandit, ça dépend de plein de choses. Après, on ne peut pas être sûr de
voilà,
ça. Heureusement,
on ne peut pas être sûr de ça, voilà, exactement. Et justement, tout va dépendre en fait, de la capacité de l'enfant à trouver des mécanismes psychologiques pour se protéger. Voilà.
Vous
si
en
l'enfant trouve des mécanismes, alors là, il a une chance.
Vous en êtes toutes vos relations avec elle aujourd'hui, maintenant qu'elle a 10 ans?
Alors en fait, en 2018, j'ai eu une nouvelle décision, parce que je suis toujours allé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui et dans le futur aussi, je dirais. Chaque mois, je suis allé en Pologne pour voir ma fille. le premier week-end de chaque mois, et 21 jours en juillet. En 2018, j'ai eu une décision où je la vois plus que le premier week-end de chaque mois, mais maintenant, c'est à l'extérieur. C'est à vendredi 15h-19h, samedi 10h-19h, dimanche 12h-18h, à l'extérieur. Donc ça, c'est bien. Après, c'est compliqué d'aider une enfant dans cette situation-là. J'essaie de trouver les moyens de l'aider, elle.
Et du coup, vous parlez en polonais avec elle ?
Alors, je parle en polonais avec elle. J'ai pris des cours de polonais et pour pouvoir lui parler en polonais, voilà. Alors, c'est un polonais de la vie courante, hein, c'est pas littéraire, mais l'objectif, c'est d'être efficace et d'être utile pour ma fille.
Bien sûr. C'est extraordinaire. Les trajets, j'imagine, les trajets, apprendre la langue, c'est fabuleux. C'est fabuleux tout ce que vous faites pour elle. Gaëlle, je vous propose qu'on fasse une courte pause, si vous le permettez.
Oui.
Hein, et on reprend cette conversation dans un tout petit instant.
D'accord.
Merci beaucoup. À tout de suite.
Je vous en prie.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Gaëlle, vous êtes là ?
Oui, toujours.
Oui, donc vous me disiez, vous avez appris le polonais pour elle, vous avez fait des allers-retours non-stop dans ce pays pour elle. Bravo,
oui,
bravo,
fait,
bravo.
Oui.
Une petite question, on a Nathalie qui a envoyé un SMS et qui nous demande pourquoi est-ce qu'elle est partie, votre femme, en fait ? Quelle était sa raison de vous quitter ?
Alors, en fait, je pense que quand on est avec une personne qui est manipulatrice, au début, c'est le conte de fées, c'est magnifique.
Mmh.
Et puis, moi, je me disais, bon, on avait des petits différends dans le couple, hein, comme dans tout couple, et je me disais, ben, je vais faire un compromis, puis elle aussi, puis on trouvera un terrain d'entente. Sauf qu'à ce jeu-là, en face d'une personne manipulatrice, ben, vous faites des compromis, et la personne en face, elle ne bouge pas. Donc, au bout d'un moment, sans vous en rendre compte, vous commencez à faire des concessions de plus en plus. Et vous vous trouvez enfermé dans un système où vous ne participez plus à aucune décision. Et donc, au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à dire, mais moi, j'existe, je veux aussi participer aux décisions, je suis une personne à part entière. Et là, en fait, quand vous arrivez à ce stade-là, la personne manipulatrice, elle change de comportement et elle rentre en guerre ouverte.
Mais quel était son but ? Je me demande, en vous écoutant, si elle n'a pas été aussi manipulée par sa propre famille elle-même, non ?
Alors, il y a plusieurs choses. Soit la personne est manipulée par sa propre famille, soit elle est même elle-même la manipulatrice. Là, je pense que dans mon cas, connaissant la famille, c'est elle-même qui est manipulatrice et qui dirige ses frères et sœurs et sa mère. Et il y avait une personne qui, dans la famille, m'a été d'un grand soutien, c'était mon ex-beau-père.
Ah oui.
Qui, malheureusement, est décédé en 2016, mais qui était là.
Ah tiens,
et qui lui avait très bien compris. Lui avait très bien compris le fonctionnement et la situation. Et qui m'avait dit ce que fait donc ma fille, oui. Donc la mère de ma fille et moi, est très mauvais pour Anaïs, donc l'enfant.
Ah, c'est voilà. Intéressant ça, que son propre père soit de votre côté à vous.
Son propre père m'a toujours soutenu. Oui. Et il s'opposait grandement à sa fille et aussi à sa femme qui obéissait en fait à sa fille. Voilà.
Oui,
ça, j'ai compris à ce moment-là.
D'accord.
C'est un schéma, voilà.
Donc,
pourquoi elle est partie ? Elle est partie parce qu'une personne manipulatrice, elle est là pour le contrôle qu'elle exerce sur l'autre.
Ouais.
Donc, si elle perd ce contrôle-là,
elle fuit.
Voilà, il faut passer à une autre victime, elle fuit. Et la victime toute trouvée, ben, c'est la victime la plus fragile ou la plus proche. Ou, quand il y a un enfant, c'est l'enfant.
La plus facile à détruire, voilà. Quoi, évidemment.
La plus facile à détruire, voilà, exactement.
Donc, vous me disiez que...
Comme un enfant... Et dans la loyauté complète, ben c'est...
Bien sûr.
Voilà.
Que les choses ont un petit peu changé dans votre droit de visite, là, si vous en étiez là de votre récit.
Voilà, donc maintenant, je la vois uniquement en sortie à l'extérieur, donc toujours en Pologne. D'ailleurs, c'est des décisions complètement absurdes, puisque les deux grands motifs de cette décision, c'était que ma fille ne parlait pas le français, ce qui est une conséquence de l'exclusion parentale.
Oui.
Donc c'est justifier la maltraitance par la maltraitance elle-même.
Exactement.
Et la deuxième, c'est ce que rabâche la mère de ma fille depuis des années, c'est qu'il y aura un risque de kidnapping de ma part. Donc, c'est comme l'a dit mon avocate en audience, j'avais déjà eu des sorties avec ma fille, je ne l'ai jamais emmenée, j'ai toujours ramené à la fin des sorties, donc si j'avais voulu faire ça, je l'aurais déjà fait, premièrement. Et en plus, c'est une présomption de culpabilité d'un acte que vous pourriez faire dans le futur. Donc, c'est en dehors de tout cadre légal.
Et c'est surtout qu'elle projette sur vous ce qu'elle a fait, elle.
Voilà, exactement. Et en fait, justement, à propos de ça, la mère de ma fille m'a dit un jour, avec tout ce que tu m'as fait, je ne peux pas avoir confiance en toi. Et justement, c'est là qu'avec une personne manipulatrice, il faut retourner la phrase en
bien
disant
sûr,
tout ce que je t'ai fait, tu ne peux pas avoir confiance en moi.
Exactement. Vous avez bien compris la perversion et comment ça fonctionne, je crois.
Ah oui, en fait, depuis 2011, et avec la situation d'enfermement avec opinion à l'extérieur, là, vous vous retrouvez dans une situation de détresse telle. que vous n'avez plus qu'à réfléchir. Hein. C'est, voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs expertises psychologiques. Alors, en expertise psychologique, ils ne déterminent pas qu'une personne est manipulatrice. En général, les psychologues et les psychiatres sont très prudents. Et donc, ils ont dit, la première expertise, que je pouvais, que j'étais tout à fait apte à m'occuper de mon enfant. La deuxième expertise, ils ont dit la même chose en disant que ma fille pouvait partir seule avec moi en France sans aucun problème. Donc là, la juge nous a donné 4 jours libres en Pologne, ce que la mère n'a pas respecté. Mmh. Puis la juge nous a donné 15 jours de vacances en France, et là, avec une amende de 800 euros aussi, donc à peu près 200 euros contre la mère, si elle n'appliquait pas. Et la mère n'a pas appliqué non plus. L'amende n'a jamais été appliquée non plus. Et j'ai pu porter plainte en France pour non-représentation d'enfants. Malheureusement, les non-représentations d'enfants en France, les plaintes sont prises, hein, puisque c'est une consigne du défenseur des droits, mais elles restent malheureusement sans suite. Voilà. Et le grand problème dans ces situations-là, c'est que finalement, on constate que le droit de l'enfant n'est pas appliqué et que si, par exemple, on avait une situation où, où le droit indiquait que le système de base, c'est la résidence alternée et qu'il est appliqué, sauf décision du juge qui sera motivée, hein, s'il y a effectivement un parent qui pose problème, qui est violent ou pas, et bien on se rendrait compte que rapidement, l'enfant verrait ses deux parents à égalité parce qu'il aime ses deux parents à égalité, il a le droit de voir ses deux parents à égalité. Et que c'est lui la première victime de cette situation-là.
Est-ce que
malheureusement, il s'est abandonné à cette situation.
Est-ce que vous arrivez à parler de cette situation avec votre fille ?
Alors, c'est assez compliqué parce que c'est une enfant de 10 ans.
Oui, mais elle commence justement à 10 ans, on commence à comprendre les choses. Elle va, voilà. Elle va entrer dans la préadolescence, là.
Tout à fait. Et là, je le constate parce que quand j'appelle en Pologne, j'ai très peu d'appels en Pologne. En général, ça raccroche. Donc déjà, j'ai appris à ma fille à ne pas raccrocher, à dire au revoir. Voilà. Oui. Mais en ce moment, la pression sur elle est en train d'augmenter puisque maintenant, à chaque fois que j'appelle, c'est ma fille qui me dit « Pourquoi tu ne payes pas toute la pension alimentaire ? Tu as plein d'argent. Pourquoi tu ne payes pas l'ordinateur ? Pourquoi ?» Voilà. Donc, ce n'est pas les paroles des enfants de 10 ans.
Non, bien sûr.
Donc, résultat,
ça sent la manipulation
appels...
qui continue. Quoi, oui.
Voilà. La pression augmente maintenant parce que justement, elle arrive dans un âge où elle se pose de plus en plus de questions. Justement, la question, c'est aussi de savoir comment aider une enfant dans cette situation-là. Voilà. Il y a des choses à dire à l'enfant, des manières de... Par exemple, moi, je dis à ma fille, Anaïs, toi et moi, on se dit la vérité. Tu me dis la vérité, je te dis la vérité.
Voilà, je pense que c'est une règle de base extrêmement importante. Vous avez parfaitement raison de faire ça.
Voilà.
Tout à fait. Avec des mots de son âge, évidemment.
J'ai essayé d'apporter à l'enfant des règles générales, globales, qui marchent toujours avec des mots de son âge et toujours sans aucune attaque de la partie adverse. Parce que justement, la mère de ma fille m'attaque tout le temps.
Mais oui.
Donc pour l'enfant, il faut qu'il y ait un des parents qui n'attaque pas l'autre et c'est pour que l'enfant puisse entendre
sinon,
ça.
Sinon, vous pensez bien que sa mère va s'en servir encore plus contre vous.
Voilà. Donc, et j'ai eu des situations où la mère de ma fille me dénigrait en présence de l'enfant. Mmh. Et donc là, j'ai une méthode qui est assez efficace, c'est de dire, tiens, pourquoi ta mère dit ça? Il n'y a pas d'explication. Moi, je suis ton père, je t'aime et je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire.
Très bien.
Et du coup, là, il n'y a aucune attaque. Mmh. Et ça ouvre l'univers de l'enfant. Mais c'est des méthodes qui sont efficaces, mais qui sont tellement, tellement inefficaces par rapport au peu de temps qu'on passe avec l'enfant. Moi, en tout, je passe 2,9% du temps avec ma fille. Comment je peux, en 2,9% du temps, contrecarrer tout le reste du temps qu'elle passe dans une famille où tout le monde est manipulé par la mère, où le discours est unique? Comment? Ça, c'est pas possible.
Non, mais
laisser un enfant dans cet enfermement, c'est très grave parce que moi, je me bats pour justement essayer d'arriver à porter une ouverture à ma fille, mais ça, c'est toujours un combat d'arrière-garde. C'est toujours un combat d'arrière-garde sans fin. Et c'est quelque chose aussi qui est un combat au quotidien. Moi, j'ai manifesté dans la rue avec des panneaux, tout seul, pour essayer de rendre médiatique mon cas. Pour que ce sujet aussi, qui est un sujet de société, devienne médiatique.
Oui.
Et c'est quelque chose qui est malheureusement très difficile. Parce que c'est pas abordé. J'ai eu notamment une journaliste une fois qui m'a dit « mais c'est pas un sujet ».
Il me semble quand même qu'on en parle de plus en plus de ce problème-là.
Alors, on en parle de plus en plus et on le constate, nous, dans les associations. Et on aimerait bien que ce soit un sujet vraiment important et que ce soit enfin réglé, qu'il y ait une égalité parentale et qu'il y ait un respect effectif des droits de l'enfant. Ce serait effectivement bien.
Mais j'imagine que dans votre association, vous rencontrez d'autres papas qui sont dans la même situation que vous ?
Alors en fait, on a des papas et des mamans. Nous, l'association, on a des pères et des mères dans l'association qui vivent des situations assez différentes, mais avec beaucoup de points communs toujours. Je pense notamment... À Régis qui voit plus sa fille depuis plus d'un an maintenant. Donc là, c'est une absence totale. Je sais pas. En fait, c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer, la violence, pour des personnes qui ne vivent pas ces situations-là.
Le C'est-à-dire que sentiment d'impuissance complet.
Quand vous allez dans un endroit qui vous déplaît ou vous vous sentez mal à l'aise, ben vous sortez, vous allez ailleurs, vous changez l'air, vous voilà. L'exclusion parentale et familiale, vous ne pouvez pas en sortir. Vous y êtes tout le temps.
Ouais.
Ça veut dire aussi que, au quotidien, vous êtes obligé de changer votre comportement. C'est-à-dire que si vous allez dans la rue publique, vous n'allez pas pouvoir y rester très longtemps.
Pourquoi ça ?
Parce que au bout d'un moment, vous dites que mon enfant devrait être là.
Oui, c'est ça. Et Gaël, j'ai entendu, vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez un thérapeute qui vous suit.
Oui, tout à fait. Alors, le suivi, forcément, pas un psychologue ou pas un psychiatre, il est fondamental pour toutes les personnes.
Bien
nous,
sûr.
C'est ce qu'on fait aussi dans la situation, c'est d'orienter les personnes pour qu'elles soient suivies. Alors, déjà qu'elles nous appellent, nous, si elles ont un doute, le moindre problème, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules.
Redonnez le nom de votre association, s'il vous plaît.
Donc, c'est Droit du parent et de l'enfant.
Droit du parent et de l'enfant.
Sur Facebook, Droit du parent et de l'enfant.
Et vous avez un site
Ben en fait, c'est sur Facebook uniquement.
Juste sur Facebook, d'accord.
Pour l'instant, voilà. C'est une page qui est entièrement publique, donc même sans compte, on peut voir la page.
D'accord.
Même s'il y a un gros bandeau, créez votre compte, on peut quand même voir la page.
Mm-hmm.
et donc, on va se trouver sur Facebook.
D'accord, c'est important.
Après, on peut nous contacter par mail aussi. Le mail, c'est ddpe@free.fr.
Redonnez-le plus lentement, s'il vous plaît.
Donc, ddpe@free.fr.
ddpe@free.fr.
Voilà.
On parlait du suivi psychologique. Bien évidemment, il y a un traumatisme puissant à la base de toutes ces histoires-là. Donc déjà, il y a un vrai travail à faire sur ce traumatisme-là.
Et seulement, vous dites comment on tient. Et ben moi, ce que je dis souvent aux personnes, c'est vous savez, on a tous un genou à terre, mais c'est nous qui sommes droits. Parce qu'on est face à une indifférence de la justice, de policiers, de la police aussi, de la gendarmerie, même s'il y a des policiers, des gendarmes qui comprennent très bien la situation. Moi, j'ai eu des personnes en Pologne qui m'ont dit, même un policier qui m'a dit « Monsieur, je suis dans la même situation que vous. J'ai deux enfants, je ne les vois pas. » C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont pris dans une structure où cette indifférence est là, où ce mépris des droits fondamentaux de l'enfant est finalement omniprésent. C'est d'autant plus choquant qu'on est aujourd'hui en 2019 et que la Convention internationale des droits de l'enfant a été signée en 1989, c'est que c'est les 30 ans cette année. Et sur le terrain, ça n'avance pas.
Ouais.
Juste appliquer les droits de l'enfant. On ne demande pas quelque chose d'exorbitant, on demande d'appliquer le droit de l'enfant, les droits fondamentaux de l'enfant, le droit fondamental des personnes d'avoir un respect pour l'individu. C'est simple, normalement. Et nos sociétés ne le font pas. Pourquoi ? Ça, c'est un questionnement. Après, pour revenir à comment on résiste, en fait, on a tous des moyens de résister plus ou moins grands, psychologiques.
Bah déjà, vous entends, Gaëlle, vous avez transcendé, vous, cette douleur-là pour en faire quelque chose, déjà. Créer une association, lancer un combat, c'est énorme. Vous êtes l'exemple vivant de cette maxime qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ».
Exactement, il faut jamais rien lâcher. Il faut se battre jusqu'au bout et il faut, dans les moments difficiles, agir. C'est-à-dire contacter des gens, s'organiser, manifester, contacter la presse, enfin, faire tout ce qu'on peut pour pas être dans l'inaction parce que justement, les situations d'extrême violence nous poussent à la dépression, à l'inaction.
Bien sûr, c'est une manière de reprendre les rênes parce qu'elle vous les a enlevées, ces rênes-là. Donc, puisqu'elle les a pris de force, vous devez vous battre pour les reprendre de votre côté aussi. En tout cas, un maximum.
Voilà, alors on en prend un petit peu, autant qu'on peut. Et puis surtout, c'est aussi retirer le pouvoir symbolique qu'on accorde un plus ou moins consciemment à l'autre parent.
Oui.
C'est-à-dire que, mais tu fais ce que tu veux, mais moi, je suis père, ou je suis mère dans le cas d'une mère, et ça ne changera pas, et je serai toujours là pour mon enfant. Voilà. Et ça, une personne qui est manipulatrice, c'est pour elle, c'est compliqué à comprendre parce que vous lâchez pas, voilà.
Il y a une petite phrase que j'aimerais que vous reteniez et qui pourrait vous faire du bien.
Mm-hmm.
Un jour, dire à votre fille, tu sais, ce que ta mère dit sur moi ne dit rien de moi. Ça en dit long sur elle.
Après, c'est ce que je lui dis, par exemple, moi je lui dis, tu sais Anaïs, je sais qu'il y a des gens qui disent des choses mauvaises sur moi. Mais moi en tout cas, mais ça c'est ce que disent les gens. Ce que disent les gens, ce ne sont pas les faits, c'est pas la réalité.
Mm-hmm.
Ce qui est important, ce sont les faits. Et les faits, c'est que moi je t'aime et que je suis là maintenant, comme chaque premier week-end du mois, pour te le dire.
Ouais.
Et ça, personne ne peut dire le contraire.
Mais je pense que vis-à-vis d'elle, vous avez adopté le comportement parfait, c'est-à-dire que vous restez, comme vous dites, droit dans vos bottes, que vous ne changez pas, même quand en face ça se passe n'importe comment et qu'elle dit n'importe quoi. Ça n'a pas plus d'influence que ça sur votre comportement à vous, ça c'est important, donc ça reste un pilier. Maintenant, j'imagine que l'espoir, c'est de se dire que cette petite fille, en grandissant, elle prendra le recul, peut-être dans quelques années, nécessaire pour comprendre les choses différemment.
Alors,
et revenir vers vous.
Après, c'est un deuxième problème, c'est que souvent on s'entend dire par beaucoup de personnes qui vous disent un peu rapidement, mais vous inquiétez pas, votre enfant reviendra vers vous. Alors déjà, ça on ne sait pas. Il y a des cas où il revient, il y a des cas où il ne revient pas. Il y a des cas où il revient manipulateur, il y a des cas où il revient honnête.
Mmh.
Donc ça, c'est le futur, on ne sait pas. Et puis deuxièmement, le problème, ce n'est pas le futur, c'est maintenant. L'enfance de l'enfant, c'est maintenant.
Mmh.
Elle se déroule maintenant. Et l'enfant, il a le droit à une enfance normale. Juste une enfance normale, respectueuse de ce qu'il est, un individu en construction et en devenir, une personne sensible. Et ça, c'est bafoué. Et moi, dans ma situation, alors bon, maintenant, j'ai fait deux fois les procédures complètes jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai fait deux fois. La Cour européenne des droits de l'homme rejette les procédures d'affaires familiales de manière massive, donc ça pose aussi question. Là, actuellement, je n'ai plus aucune procédure en cours. Moi, j'ai dépensé plus de 98 000 euros en tout, donc avion, avocat, traduction, etc. Parce que les traductions, en fait, l'Union européenne oblige à avoir des traducteurs pendant les audiences, à l'oral. Mais toutes les pièces de procédure sont en polonais et c'est à vous-même de payer la traduction pour savoir ce que le tribunal explique ou ce que les experts psychologues expliquent. Donc c'est pareil, il faut avoir un budget colossal.
Ouais.
Alors, il en demeure pas moins que l'enfance de ma fille, c'est maintenant, et que mes grands-parents ont fait une procédure qui est en cours. Ils ont été entendus en France une fois. Le tribunal en France a envoyé la réponse en mars. On est en octobre, il n'y a toujours pas de date d'audience fixée. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'attente. Et le temps passe. Hein. Voilà, moi, je parle, ma mère est malade, elle a une maladie dégénérative, neurodégénérative. Elle ne sera pas là indéfiniment. Et qu'est-ce que je veux dire à ma fille, c'est un jour elle est grande, je lui dis tu n'as pas connu ta grand-mère parce que ta mère n'a pas voulu, les autorités polonaises ont appuyé son choix, la France n'est pas intervenue pour t'aider alors que tu étais une ressortissante mineure bloquée à l'étranger sans aucun motif valable. Qu'est-ce que je lui dis? Voilà.
Gaëlle, si vous permettez, on va marquer une pause. Il y a plusieurs appels en réaction à votre témoignage et notamment quelqu'un qui aimerait vous parler. Donc on marque une courte pause et on voit comment on s'organise pour vous mettre en relation à l'antenne. À tout de suite.
D'accord, tout à fait, merci.
Laissez votre message à Sabine Marin au 7 39 21, 75 centimes, plus coût du SMS.
Gaëlle.
Oui,
j'ai Fabrice qui est en ligne avec nous, qui souhaitait intervenir. Bonsoir Fabrice.
Oui, bonsoir.
Soyez bienvenu.
Merci beaucoup.
Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Gaëlle.
Alors, on vous écoute Fabrice.
Alors, moi je voulais intervenir... par rapport à, justement, l'égalité parentale. Je suis intervenu dans l'émission de Sana Blanger la semaine dernière sur la résilience. Et je pense que ce terme-là, pour Gaëlle, ça devrait lui parler, parce que là, je l'ai entendu parler en début de reportage, où on a senti une grosse émotion qui sortait de lui.
La résilience n'empêche pas l'émotion.
Comment ?
La résilience n'empêche pas l'émotion.
Voilà, non, tout à fait. Mais jusque-là, parfait. Mais simplement, au niveau des actions qui sont menées à ton encontre, ou même à l'encontre de l'ensemble des papas ou l'ensemble des mamans dans le cadre de séparation, moi j'ai pu rebondir et j'ai pu agir justement et me dégager de cet émotionnel-là qui fait que généralement, lorsqu'on reçoit des coups, lorsqu'on reçoit des mauvaises informations, lorsqu'on reçoit des mauvais jugements, on s'enterre, on le prend, et c'est comme si c'était toute une montagne qui nous tombait sur la tête. Alors qu'en fait, quand on regarde ces coups qui arrivent, il faut simplement les laisser passer, les regarder passer, et comprendre pourquoi ils arrivent. Et lorsqu'on les regarde derrière, on a tout un champ qui s'ouvre à nous pour pouvoir les contrer. Alors, on les compte sans être affecté émotionnellement, et du coup, on les compte de façon positive. Et c'est je dirais, qui, notre façon positive d'agir sur ces coups-là qui fait que les choses changent tant au niveau de la justice qu'au niveau des écoutes des autres. Et ça, je trouve que c'est important à faire passer comme message. Bien entendu, on mène des actions en justice, on mène des actions dans tous les sens, mais c'est surtout le comportement et la façon de faire qui est importante. Et c'est en ça que la résilience est importante, c'est-à-dire que c'est d'une situation négative, c'est en faire une action positive et qui change complètement le regard de ce qu'on peut avoir.
Fabrice, si je comprends bien ce que vous dites en quelques mots, c'est que quand on ne peut pas changer une situation, on peut changer la manière dont on se positionne par rapport à cette situation.
Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, lorsqu'on est vraiment atteint, parce que là, pour l'ensemble des parents qui sont touchés par l'exclusion parentale ou des choses comme ça, c'est cette position-là qui fait de nous une personne différente et qui permet d'agir de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus factuelle et qui permet justement d'enclencher quelque chose qui fait que la roue tourne et généralement en notre faveur.
Mais comment la prendre, cette bonne distance émotionnelle-là ?
Alors, c'est ma façon personnelle que je vais exposer. Moi, je me dégage de toute émotion. Alors, je me suis forgé comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui m'arrive et qui va me toucher, je le sens arriver, je le vois arriver, ça me touche. Mais je ne réagis pas tant que je ne l'ai pas digéré et tant que je n'ai pas compris pourquoi on me l'envoyait. Une fois que je l'ai reçu et que j'ai compris pourquoi on me l'envoyait, et ben du coup, vous êtes capable de retourner la situation et de l'exprimer autrement. C'est vraiment un travail technique et c'est un travail intellectuel à faire. C'est vraiment un recul complet qu'il faut avoir.
Oui, Gaël.
En fait, Fabrice, je comprends votre méthode. Je dirais que pour ma part, en fait, je dirais que ma manière de me défendre à titre personnel, c'est de vivre les émotions, parce que c'est ma fille et que c'est de l'amour et c'est de l'émotion, voilà. Après, les attaques de la partie adverse, je dirais que je les traite pas a posteriori, mais je les identifie comme quelque chose de pathologique. Donc du coup, quand ça arrive, je suis déjà protégé parce que en fait, c'est une manière de déconstruire la gravité de l'attaque, parce qu'elle n'a plus, elle est absurde en fait cette attaque. Elles sont absurdes parce qu'elles ont un fondement réel.
Tout à fait.
Après, donc voilà. Donc c'est d'une autre manière, c'est qu'il y a rien au même finalement, je pense.
C'est tout à fait ça. Mais voilà.
Pardon. Ouais. Après, la problématique, c'est que on est face à des juges des fois. Où en fait n'importe quelle posture ne changera pas leur interprétation. C'est souvent les conservateurs, malheureusement. Et en fait, vous pleurez pas, on vous dit que vous êtes insensible. Vous pleurez, on vous dit que vous êtes instable. Enfin, vous voyez, c'est des situations où voilà, c'est très très complexe parce qu'on est face à des personnes qui ont déjà chauffé une opinion. Et quoi que vous ameniez, ou quel que soit votre comportement, moi j'ai beaucoup, en fait, j'ai très rapidement arrêté d'affirmer des choses. J'ai écrit des courriers au tribunal en soulevant des questions.
Fabrice, si je peux me permettre, j'ai l'impression que vous parlez plus de quelque chose qui s'appelle un peu la loi d'attraction.
C'est un peu ça. En fait, globalement, moi, dans mon histoire, qui est très tordue, on va dire, j'ai réussi par mon comportement, par mon attitude, par les paroles, par les gestes, par les actions, à mettre l'ensemble. Enfin, pour l'instant, parce que ma situation n'est pas terminée, mais à mettre une grosse partie des gens qui étaient contre moi au niveau de la justice, au niveau des services sociaux, au niveau des diverses associations qui pouvaient vérifier ce qui se passait chez moi, j'ai réussi à les mettre dans les poches, sans mentir sur ma situation, mais en ayant une position et une action qui permettaient à ces personnes-là de réfléchir sur qui j'étais et de comprendre qu'en fait la partie adverse n'était pas forcément dans le vrai.
J'ai quand même une question, Fabrice. Vos émotions, vous les exprimez quand, du coup ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ?
Alors, moi, mes émotions, elles me sont personnelles. Si je me mets à parler de ce qui s'est passé, je vais être un peu comme Gaël, à me couper en deux et à verser toutes les larmes de mon corps.
Je veux dire, vous vous autorisez quand même quelquefois à les exprimer, ces émotions-là.
Oui, mais...
C'est important.
Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, dans ma défense, dans mes actions, elles sont complètement effacées.
Mmh.
Et
en fait,
oui.
Si je peux me permettre. En fait, la problématique qu'on a face aux tribunaux, c'est que beaucoup de juges considèrent qu'ils sont simplement face à un couple de deux adultes qui sont en conflit, et qui sont en conflit parce qu'ils ne communiquent pas assez.
C'est un
Et
peu ça
ça,
aussi, oui.
c'est une hypothèse qui est faite par beaucoup de juges et qui est totalement fausse. Qui est totalement fausse. Moi, on m'a proposé des médiations après 6 ans. 6 ans d'enlèvement, 6 ans avec des non-respects d'une décision par la mère, et on vous propose une médiation. C'est complètement absurde. Il faut qu'au bout d'un moment, il y ait une autorité, un juge qui dise le droit, c'est ça, et monsieur, vous allez respecter, et madame, vous allez respecter. S'il n'y a pas d'autorité qui font ça, alors les personnes manipulatrices, les personnes qui souffrent d'une perversion comportementale, gagnent à tous les coups. Surtout d'autant plus que devant un tribunal, ce sont des personnes qui vont agir sans aucun affect et qui vont faire ce qui est efficace.
Et bien
Alors qu'en face,
justement,
vous
Gaël.
avez un parent qui est en difficulté,
Mais
émotionnelle.
justement, c'est là où le souci, c'est que l'affect au tribunal, il ne faut pas l'avoir.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Gaël. C'est ce que Fabrice nous
Tout
explique, c'est qu'en fait,
à fait.
si vous pouviez démêler l'émotionnel du factuel, pour être plus fort, en fait.
C'est exactement ça. En fait, excusez-moi de vous
Alors,
couper, hein, mais
après, oui.
l'émotionnel, on le reçoit lorsqu'on reçoit les pièces de la partie adverse, lorsque y a l'enfant qui nous appelle et qui. Comme j'ai entendu, mais pourquoi tu ne payes pas la pension alimentaire? Pourquoi tu ne payes pas tout l'ordinateur? Ça, c'est l'émotionnel qu'on l'on prend et qui nous découpe parce qu'on se dit, bah, c'est pas possible, on fait tout ce qu'il faut, mais au final, on est encore jugé par ça. Mais lorsqu'on arrive au tribunal devant le juge, on n'est plus du tout à ce moment-là dans l'émotionnel, on est dans le factuel. Et lorsque la partie adverse, et c'est ce qui se passe, je pense que tu ne me contrediras pas, Gaël, lorsqu'on se retrouve devant le juge, la partie adverse, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, bah, monsieur est un mauvais père parce qu'il ne paye pas. Ah, monsieur est une, enfin, madame est une mauvaise mère parce que, elle a abandonné ses enfants. Ça, ce sont des éléments émotionnels qui le mettent en avant. Mais, sachant que l'on sait que la partie adverse va réagir comme ça, nous, qu'est-ce qu'on doit faire face au juge? C'est juste être factuel. Moi, ces
Alors après,
propos-là.
après, après, j'entends ça,
Tu vois?
Fabrice. Après, il y a certains juges auprès desquels ça fonctionne et d'autres juges auprès desquels ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai un cas où il y a eu 3 signalements faits par une psychiatre disant que la mère était dangereuse et le juge a placé l'enfant auprès de la mère. Voilà. Donc après, c'est des choses. Moi, je sais qu'en Pologne, devant le tribunal de la ville de Poitiers, en l'occurrence, je suis face à un mur et il n'écoute pas du tout. J'ai amené plein d'arguments de manière factuelle, sans émotion. Quand je relatais des choses, on me dit, mais venez-en au fait. Mais j'en suis au fait. Voilà. J'ai parlé de psychologie en audience. On m'a dit, monsieur, on n'est pas là pour faire de la philosophie
Mais oui,
en parlant de psychologie de
mais
l'enfant.
oui,
Donc
mais
voilà, tout à fait. Mais non, mais justement, c'est là qu'est le problème, parce que, en fait, vous êtes face à des juges, en fait, les audiences, c'est une parodie. J'ai même eu une de mes avocates, des nombreux avocats que j'ai eus, qui m'a dit, il y a un moment, j'ai pris du recul, j'ai juste regardé, c'était juste hallucinant. C'est qu'on a une parodie de justice par certains juges qui se foutent complètement du fond du dossier et qui traitent ça n'importe comment. Moi, quand j'ai eu des éléments de la procédure en Pologne qui sont arrivés en France, notamment pour des impayés, parce que moi j'ai toujours payé spontanément une pension alimentaire, toujours, même sans décision. Finalement, le tribunal a décidé en 2017 de fixer une pension alimentaire à 300 euros par mois, sachant que le salaire minimum en Pologne c'est 385 euros. C'est-à-dire que la mère de ma fille, elle vit chez sa mère, elle est nourrie, logée, blanchie, elle travaille et en plus je devrais lui payer quasiment un SMIC alors qu'elle détruit la vie de mon enfant. Et comme le dit très bien Jacques Biolay dans son livre Enfant libre ou enfant otage, réduire un des parents à un simple contributeur financier, c'est une violence extrême. Et là, le système, il participe à cette violence-là. Ça, c'est important de le dire et de dire qu'il y a des très bons juges, et il y a aussi des juges qui font ça. Et l'avocate que j'ai eue, elle m'a dit, j'ai d'autres tribunaux en Pologne, ça se passe très bien. J'ai un autre cas d'un père français qui avait la même situation que moi. Le juge lui donnait des vacances en France tout de suite. Ils ont tout de suite réagi quand la mère ne respectait pas et ça s'est très bien passé. Donc ça dépend vraiment des tribunaux, ça dépend des villes. Et même dans les tribunaux, ça dépend parfois des juges eux-mêmes. Et le problème, c'est que quand on est face à un mur, c'est assez compliqué de réagir. Moi, quand je suis en France, le contact avec les autorités, il est très compréhensif. J'ai eu une écoute et j'ai des personnes, j'ai encore été convoqué récemment par la police, où la policière m'a dit à la fin, mais tenez bon, monsieur, tenez bon.
Gaël, on est là dans un débat à plusieurs niveaux, n'est-ce pas, Fabrice?
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Hein? Et là,
Tout à fait.
je pense que ce que après toutes les choses matérielles, enfin voilà, vous savez, on entend bien Gaël que vous avez compris tous les rouages, que vous avez cette association. Maintenant, ce que Fabrice vous disait, et c'est un petit peu une ouverture que j'aimerais vous apporter aussi, c'est vous. sur le plan émotionnel, sur le plan humain, pour tenir le coup, arriver à prendre, à travailler sur cette distance émotionnelle. Alors, j'entends que vous avez un thérapeute, ça c'est bien.
En fait, la problématique par rapport à la distance, elle est indissociable de la répétition de l'événement et de la durée.
On parle de distance émotionnelle, Gaëlle. Par exemple, faire de la méditation pour prendre un recul déjà vous-même.
Oui, tout à fait, mais je vous rassure, je fais tout ça, ceci dit. Et, alors peut-être qu'au début, mon témoignage est paru émotionnel, parce que dès que je reparle de ce sujet et que je rentre dans les détails, effectivement, l'émotion en prend le dessus, et c'est naturel, et c'est humain.
Bien sûr.
Voilà, donc je vous rassure, je fais de la méditation, je fais tout ça, j'ai travaillé tout ça, et j'ai eu ces trucs-là, bien fort heureusement, et j'en ai besoin. Comme vous me disiez tout à l'heure, comment vous faites pour tenir? Voilà, effectivement, être suivi, faire la méditation... se prendre des moments pour soi-même.
Voilà, ça c'est important.
Boire un café en terrasse, etc. Rencontrer des gens, bouger, voilà, etc. C'est très important, c'est fondamental.
Je suis tout à fait
d'accord. Fabrice, oui.
Excusez-moi de vous couper. Et moi j'aurais une question à poser à Gaëlle. Alors, excuse-moi de te tutoyer, mais bon, je pense qu'on peut se tutoyer dans la mesure où on a la même problématique un peu. Qu'est-ce que tu fais de créatif positif pour toi? Par rapport à ta problématique.
Déjà, il y a le créatif pour soi-même. C'est-à-dire que moi, je suis dans une troupe d'improvisation.
D'accord.
Dans laquelle j'ai trouvé déjà un espace de créativité et aussi un grand soutien personnel. Parce que c'est une troupe qui s'appelle Le Cidre à Nantes et qui a déjà fait des spectacles en soutien à mon association.
Messieurs, pardonnez-moi, mais le temps passe très très vite. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre en contact hors antenne. Hein, parce que moi, je vais devoir vous quitter là pour les informations et enchaîner l'émission. En tout cas, je suis ravie de savoir que vous êtes en contact tous les deux.
Merci
Fabrice de votre intervention.
Je vous en prie.
Gaël, je vous souhaite... Oui, dites-moi.
Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse arriver à une évolution législative rapide et à ce que la résidence alternée soit mise en place et simplement l'application des droits de l'enfant tel que défini il y a 30 ans maintenant dans la CIDE.
Je pense déjà, que grâce à vous, Gaël, le message est bien passé, votre association aussi. Redites une dernière fois le nom de votre association.
Donc, droit du parent et de l'enfant.
Droit du parent et de l'enfant. Voilà, vous ne quittez pas tous les deux, on vous met en relation et je vous souhaite vraiment le meilleur à l'un et à l'autre. Merci de votre appel.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Merci à tous.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1. Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin. Libre antenne d'Europe 1, nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez continuer à appeler pour prendre la parole tout au long de l'émission. Il vous suffit de composer le 39-21 et vous tomberez sur Hassan ou sur Oscar qui vous accueilleront au standard d'Europe 1 qui vous guideront ensuite jusqu'à moi. Vous savez que vous pouvez aussi intervenir tout au long de l'émission par SMS en tapant le 739-21 et en commençant par le mot nuit, N-U-I-T en majuscule. Vos SMS toujours pour poser une question à quelqu'un qui intervient, pour apporter un soutien, une idée, peut-être une solution si vous en avez une. C'est aussi par SMS bien sûr que vous pouvez demander à entrer en contact hors antenne avec quelqu'un qui vous a touché. Enfin, dernier moyen pour nous joindre et pour rester en contact, les mails, écrivez-nous à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. Et à ce propos, si vous souhaitez témoigner, si vous avez envie de prendre la parole et que pour une raison ou pour une autre, eh bien, vous ne pouvez pas le faire ce soir, sachez qu'à tout moment vous pouvez entrer en contact avec nous. À cette adresse aussi, libreantenne@europe1.fr. Vous laissez un message en précisant bien que c'est pour la libre antenne du week-end. Vous laissez le sujet qui vous préoccupe, votre numéro de téléphone, et on vous rappellera dès le week-end prochain. 23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est Diane que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous, Diane.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Je ne sais pas comment commencer l'histoire. Voilà.
On va commencer par le début, peut-être.
Oui.
Je vous écoute.
J'étais dans un colloque organisé à mon lieu de travail de la part du CHT, de trucs d'information sur sur les violences sexuelles et morales faites aux femmes. Voilà, en truc d'information. Et c'est et donc bon, le colloque se passe et tout ça, et puis l'intervenante parle après de viol. Et j'ai failli me barrer du colloque parce que j'ai l'impression que d'avoir explosé en vol, quoi, que tout est remonté. Et que je pensais avoir guéri de ça, et non.
Ah.
Et après, après ce colloque, un ou deux jours après, j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale pour des problèmes d'argent. Et elle me dit, qu'est-ce que t'en as pensé du colloque? Et puis je lui dis, ben, tu sais ce que j'en pense, je vais lui dire... Qu'est-ce que tu fais quand tu as été victime il y a longtemps et que tu n'as pas pu le dire? Enfin, j'ai essayé de le dire à ma mère et tout ça, mais j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas comprise et tout ça. Et j'ai l'impression d'avoir explosé en vol et je ne sais pas pourquoi ça c'est ressurgi comme ça.
Alors, attendez,
et voilà.
Si vous le permettez, Diane, on va essayer de recoller les morceaux pour que je puisse comprendre votre histoire de vie. Quel âge avez-vous là aujourd'hui?
54.
Et qu'est-ce qui s'est passé et surtout quand? Quand est-ce que ça s'est passé?
J'avais 17 ans quand ça s'est passé.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, je rentrais du cinéma le soir et je prenais mon RER, j'étais sur le prenais le couloir du RER et il y a quelqu'un qui a surgi que j'ai pas vu venir et qui m'a agressé, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que vous avez réussi à en parler?
Non, j'ai pas réussi.
À personne?
La première chose que j'ai faite quand je suis rentrée, c'est que je me suis tellement sentie salie, humiliée, que j'ai pris plein de bains tout le temps.
Oui.
Et je savais où était la pilule du lendemain. Ma mère m'avait montré où elle était dans la salle de bain. Et j'ai essayé de le dire après, mais j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas compris. Ou je sais pas, par phrase détournée et tout ça, mais j'ai...
Donc c'était ce qu'on appelle une double peine, c'est-à-dire que vous avez cette souffrance-là et vous n'arriviez pas à la faire entendre.
Ouais.
Ok. Et donc ce que vous avez fait, c'est que j'imagine que vous avez enfoui ça quelque part à l'intérieur.
Oui, mais je pensais avoir guéri de ça, quoi, que j'avais tourné la page et... Et je m'aperçois que non, finalement.
Mais Diane, pour guérir, il faut se soigner.
Hein?
Et vous n'avez jamais soigné cette blessure-là?
Je l'ai enfouie, alors,
et
on voulait dire.
Ben oui. Vous avez mis un joli couvercle par-dessus parce que c'est la seule solution que vous avez trouvée à ce moment-là pour survivre et pour vous construire et avancer dans la vie. Mais comme vous dites, oui, c'était resté enfoui et à un moment donné, le couvercle a sauté. Est-ce que vous avez construit une vie de femme?
Mais pourquoi il a sauté maintenant?
Alors justement, j'allais y venir. Est-ce que vous avez construit une vie de femme? Est-ce que vous avez des enfants?
Non.
Et ben voilà.
Non, depuis ça, je ne dis plus jamais les mecs.
Et ben oui. Donc la blessure, elle est béante?
Elle
est béante, cette blessure-là. C'est-à-dire qu'elle est ouverte, elle est toujours présente. Ça veut dire qu'elle a influencé toute votre vie.
Vous croyez?
Que parce que vous me le dites vous-même, parce qu'il s'est passé ça, vous n'avez pas construit derrière une vie de femme et de maman.
Non.
Vous êtes restée dans cette position-là de souffrance, tout en disant finalement je l'ai enfoui, donc forcément ça a cicatrisé. Eh bien
oui,
non.
Oui, c'est ça.
Eh bien non, il y a des blessures qui cicatrisent pas quand on les soigne pas. Et pourquoi c'est ressorti maintenant? Parce que probablement il y a eu des mots qui ont été dits pendant ce colloque. Des situations qui ont été racontées, qui vous ont renvoyé directement face à ça, face à ce qui vous est arrivé, vous? Parce que le viol et la violence faite aux femmes, ce n'est pas un sujet qu'on aborde dans notre quotidien tous les jours. Tu es d'accord?
Oui, oui.
Ce n'est pas quelque chose dont on parle avec les copines, avec les commerçants. Voilà, ce n'est pas un sujet classique.
Non, mais c'était un colloque organisé par le CHCT au boulot, en guise d'information au départ. Hein.
Voilà, sauf que là, d'un seul coup... Vous avez eu en face de vous des gens qui ont mis des mots sur ce que vous aviez vécu. Et ça a rallumé la mèche. Mais je pense que c'est une bonne chose que ça ait rallumé la mèche, parce qu'il faut que ça sorte. Quel que soit bien sûr. Quel que soit le temps qui a pu passer, que ce soit 10, 20, 30, 40, 50 ans après, quand une blessure n'est pas cicatrisée, il faut la nettoyer, il faut travailler là-dessus. Il faut en parler. Vous avez besoin de mettre des mots sur ce qui s'est passé.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit, l'assistante sociale. On a pris rendez-vous chez un psy.
Oui.
Et bon, déjà, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça me fout un peu la trouille. Je ne sais pas comment... J'ai jamais vu de psy de ma vie, donc...
Oh, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous savez, c'est juste quelqu'un avec qui vous allez parler. Justement, pouvoir mettre des mots, sortir tout ça. Mais on peut déjà commencer un petit
mais
peu.
Mais ça ne change rien, ça.
Et si ça change les choses. Pouvoir, tout ce qu'on garde à l'intérieur nous fait du mal. Quand ça sort, ça fait du bien. Vraiment. La meilleure preuve, vous étiez en train de vivre avec une sorte de volcan à l'intérieur.
Ouais.
Avec un beau gros couvercle, et sur le couvercle, à mon avis, une bonne chape de béton.
Oui, c'est ça.
Et si vous pensez que les mots n'ont pas d'importance, vous vous rendez compte là qu'il a suffi de quelques mots pour que tout ça ressaute. Bien sûr que les mots ont l'importance. Si vous aviez ce type en face de vous aujourd'hui, vous pourriez commencer par lui dire quoi ?
Ah non, je l'achève, je lui casse la tête.
Si vous deviez avec des mots lui dire « qu'est-ce que tu m'as fait ? Regarde ce que tu m'as fait. » Qu'est-ce que vous diriez ? Tu m'as sali ?
Je dirais que c'est une sale ordure, qu'il ne mérite pas de vivre.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là, quand il vous a touché ?
J'avais la trouille, je me suis senti, j'avais la trouille, je me suis senti salie, humiliée, j'ai essayé de me défendre.
Ouais.
J'ai pas vu venir la personne, quoi.
Et si vous l'aviez en face de vous, peut-être aujourd'hui, vous pourriez lui dire aussi, est-ce que tu te rends compte de l'impact que ça a eu sur ma vie ?
Oui, mais le fait de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas obligé non plus d'avoir des enfants aussi. Donc...
Non, ce n'est pas obligé, bien sûr. Mais est-ce que c'était vraiment un choix ? Quand vous dites les hommes plus jamais, ça ne me semble pas comme quelque chose qui est un choix, c'est quelque chose qui est presque une double punition. Parce que celui-là vous a sali et vous a détruite, vous ne vous êtes pas autorisé à vivre une relation harmonieuse avec un homme d'après ça.
Oui, c'est vrai.
Et oui.
C'est vrai.
C'est-à-dire que malgré vous, vous avez laissé à ce salopard, pardonnez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot, le pouvoir de continuer à vous détruire chaque jour de votre vie. En boucle. Parce que tout ça est resté à l'intérieur, donc c'est vraiment important que ça sorte maintenant.
Ouais. Mais qu'est-ce que ça changera dans ma vie de que ça sorte ? C'est ça que je voudrais savoir.
Ça peut vous apaiser sur plein de choses. Vous m'avez dit que vous avez 54 ans, mais vous pouvez encore rencontrer quelqu'un. Vous pouvez encore construire des choses, encore avoir confiance en un homme. Ça peut être possible, ça. Comment vous vous êtes senti ? Parce que vous avez commencé cette conversation en me disant qu'à un moment donné, quand il y a eu le colloque, j'ai cru que j'allais sortir, mais vous n'êtes pas sorti finalement.
Non, je ne suis pas sortie, je suis restée jusqu'au bout.
Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps ?
C'est pas dans mon corps.
Vous avez dit tout à l'heure que j'avais comme une boule.
Ouais, j'ai l'impression d'avoir eu une bombe qui a explosé à l'intérieur, quoi.
Oui, c'est ça.
Donc, comme si j'avais explosé, là. Paf.
Et qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas parti, finalement, que vous êtes resté jusqu'au bout ?
Non, parce que je voulais rester jusqu'au bout, affronter.
Et voilà, justement, je pense que là, la vie est en train de vous dire que c'est le moment. Vous aviez besoin d'entendre ces mots-là et maintenant vous avez besoin, vous, d'exprimer ces mots-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous m'appelez ce soir.
Non.
Il y a quelque chose...
Oui, ouais. Je me suis dit, est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que j'en parle ou j'en parle pas ? Voilà.
Et oui, mais là, ça y est, là, vous avez ouvert la porte.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, vous ne l'avez pas fait volontairement, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui a dit stop, ça suffit. Parce que ce qui peut se passer aussi quand on garde des choses enfouies comme ça, c'est qu'est-ce qui fait ce bruit-là ?
Je ne sais pas, c'est mon portable qui vibre, mais je ne sais pas pourquoi. Ah.
Quand on garde des douleurs comme ça à l'intérieur, au bout d'un moment, ça peut aussi finir par déclencher une maladie. C'est
à
pour
ce moment-là.
Oh oui. Des traumatismes se déclenchent des maladies, bien sûr, bien sûr. Et là, ce que votre corps est en train de vous dire, c'est stop. Il faut que ça sorte maintenant. Et donc, c'est une très bonne chose que vous ayez pris rendez-vous avec une psy. Et vous verrez, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a pas de...
L'assistante sociale a bien fait d'insister là-dessus.
Oh, complètement, bien évidemment. Bien évidemment. Maintenant, sentez-vous libre aussi de voir si la personne qu'on vous propose vous convient. C'est important
oui,
d'avoir... Vous avez le droit aussi de dire non, je ne me sens pas bien, ou oui, je me sens bien avec elle ou avec lui, et je sens qu'on va pouvoir se parler, que je vais pouvoir dire les choses. Après, vous dites les choses les plus simplement du monde, vous parlez de tout ce qui s'est passé.
J'ai une appréhension parce que je ne sais pas comment ça va se passer, si je ne sais pas si je pourrais parler. Ça me fout la trouille un peu aussi dans un sens.
C'est la peur de l'inconnu. Ça, c'est un homme ou une femme qui va vous recevoir ?
Une femme, j'ai insisté que ce soit une femme.
Eh bien, je pense que son rôle, déjà, va être de vous mettre à l'aise, de vous prendre par la main dès le départ pour vous parler. Vous poser des questions, établir un climat de confiance, simplement. Un peu comme ce qu'on fait là, c'est pas plus compliqué que ça. Commencez par échanger, pouvoir vous connaître, comprendre votre histoire de vie, comprendre où est la blessure, comprendre pourquoi là, ça a explosé d'un coup, et vous aider à mettre des mots, une fois de plus, des mots M-O-T-S, sur les mots MAUX.
Ouais.
Et croyez-moi, ça change les choses.
Donc j'ai bien fait d'après vous ?
Complètement. Il a suffi de quelques mots pour que, comme vous disiez, ça explose à l'intérieur.
Pourquoi ça a mis autant de temps ?
Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est utile de le savoir, de le comprendre. Finalement, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est de comprendre que maintenant, il faut que ça sorte, quoi. Pourquoi maintenant ça, je ne peux pas vous lire comme ça. C'est lié à une histoire de vie, c'est lié à plein de choses.
Enfin, je lui en veux un peu, l'intervenante, parce que je lui dis que c'est de sa faute, elle a tout déclenché en moi quand elle a prévu ça.
Ben, vous devriez plutôt la remercier que lui en vouloir. Ah, c'est sûr que quand on soulève le tapis et que c'est sale en dessous, on n'est pas content de voir qu'il y a de la saleté. Mais en même temps, un grand coup de ménage, ça fait du bien après. C'est vraiment important. Vraiment.
Ah oui, c'est vrai.
Je suis sûre que ça va vous faire beaucoup de bien pour la suite. Et ça va vous ouvrir plein de portes. Vous libérer dans des relations possibles, vous libérer dans la confiance en vous, dans plein de choses.
C'est ce qu'on me dit aussi, oui, sur la confiance en moi. C'est pour ça que tu n'as pas confiance en toi.
Bien sûr, j'entends bien qu'il y a ce problème-là. Vous avez tout de suite mentionné cette blessure d'humiliation. Et quand on a été humilié, on perd... Oui ? C'est le réveil ?
Non. Oui.
Quand on a vécu un traumatisme comme ça, bien sûr, on perd confiance en soi. Surtout quand on l'a vécu seul. Donc tout ça sont des choses que vous allez pouvoir restaurer, améliorer. Et donc ça veut dire aussi du mieux-être pour les années qui viennent.
Donc ça va aller dans le positif.
Bien sûr, ça va aller dans le positif, bien sûr. Et vous devriez lui être très reconnaissante à cette femme d'avoir prononcé tous ces mots-là.
Ouais.
D'accord, Diane ?
Ouais. D'accord.
Bon, je vais vous laisser aller éteindre votre sonnerie parce que c'est un peu compliqué.
Je suis désolée.
Non, mais je vous en prie, prenez vraiment soin de vous maintenant. Hein.
D'accord.
Et faites confiance à la personne qui va vous recevoir, c'est son métier, elle va être là pour vous mettre à l'aise.
D'accord.
D'accord. Je vous embrasse très fort.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Allez, un peu de sérieux, 3921, si vous souhaitez nous appeler pour prendre la parole, vous tomberez sur Hassan ou sur Oscar qui vous attendent au standard d'Europe 1. Et maintenant, c'est Frédéric que j'accueille. Bonsoir à vous, Frédéric.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci à vous. Je voulais vous appeler parce que, en fait, je suis un petit peu décontenancé.
Ah.
Le témoignage de la personne d'avant, était absolument magnifique.
Duquel vous parlez ?
De la jeune femme, enfin de la femme d'avant.
De Diane, d'accord.
De Diane, voilà, excusez-moi, j'avais oublié son prénom.
Ouais.
Et elle était, enfin, c'était vraiment très bouleversant. Bon, bref. Moi, je vous appelle parce que ma maman était infirmière psy. Elle a été en retraite avant l'âge de la retraite parce que. Elle ne pouvait plus se déplacer comme il faut. Depuis plusieurs années, elle est pas mal malade. Donc, je me suis décidé à partir de mon travail et de la soutenir. Donc, en fait, bon, j'ai plus de travail, je suis au RSA. Je vis chez mes parents. Et moi, ce qui m'embête, c'est que en fait, on a fait une demande APA pour que maman puisse avoir des aides,
oui,
et que pour que moi, je puisse pouvoir retrouver un travail. D'après ses médecins, donc elle a un médecin traitant et une kiné, elles disent que maman, elle est au niveau 2-3, au niveau, enfin, sur la grille, sur la grille grill, en fait.
Et qui fonctionne comment, cette grille-là?
Ah, mais c'est sur tout ce qui se passe dans la maison, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, c'est tout ce genre de choses-là. Enfin, pour l'instant, moi, c'est moi qui m'occupe de tout. Hein. C'est à part la nourriture, parce que maman, elle tient à faire tout ce qui est nourriture. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. C'est-à-dire que je fais le ménage, la lessive, le repassage. Je m'occupe de l'entretien du jardin.
De faire tourner toute la maison, quoi.
Oui, exactement, ouais. Tout à fait. Et ça, c'est 6 jours sur 7. Hein, c'est je m'octroie peut-être un jour par semaine, mais c'est le grand maximum. C'est s'il faut faire quelque chose un de ces jours, je le fais, quoi. Hein, c'est y a pas de souci. Moi, ce qui m'embête, c'est que l'APA me dit que ma mère n'est pas éligible parce que elle peut faire ce genre de choses, mais moi je trouve pas. Elle n'est pas vraiment, elle ne peut plus faire ça. Elle a 70 ans. À 70 ans, je suis désolé, mais soit vous allez dans un EHPAD, soit vous avez un fils aimant, hein, qui est chez vous et qui puisse.
Attendez, Frédéric, est-ce que là on mélange peut-être un peu les choses. 70 ans, c'est pas, oui, vieux du tout, c'est parce que votre maman est malade.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est, oui, ça, c'est pas une question d'âge, oui, parce qu'on peut à 80 ans, 90 ans être très très bien aussi. Là, 70, oui, non, ans, fait, c'est pas vieux, mais effectivement, elle souffre de plusieurs maladies.
Elle a fait un AVC en mars.
Oui.
Ça s'est très bien passé. C'est un AVC. Hein. Mais bon, elle a quand même des problèmes de dos, de genoux depuis toujours. Sauf que quand elle était, quand elle travaillait en hôpital psy, elle cachait ça. Et moi perso, ça me fait chier parce que j'aurais dû le voir. J'aurais dû voir qu'elle était aussi mal, quoi. Et lui dire, mais arrête maintenant, on peut s'en sortir financièrement, machin. Mmh. Mais elle a continué jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'hôpital psy lui dise on peut plus vous garder parce que vous pouvez plus faire ce que vous faisiez avant, quoi. Mmh. Donc ça l'a détruite déjà. Ça l'a détruite. Donc nous, ça nous a détruit, mon père et moi. Et maintenant, elle est tellement mal. Moi, je suis heureux, hein, de d'être à la maison, d'être un aidant familial, de tout ça. Bien sûr, j'aimerais bien des compensations par rapport à ça, mais bon, ça, je ne sais pas si ça arrivera un jour.
Mais on sait que le statut d'aidant est compliqué. Mais Frédéric, je sais que vous avez appelé plusieurs fois la Libre Antenne.
Ouais.
Quelle est la raison de votre appel ce soir par rapport aux appels précédents?
Bah, c'était juste pour parler.
Vous avez besoin qu'on vous tienne un peu compagnie?
Un petit peu, oui. Ouais. Ouais, parce que je suis un petit peu seul.
Oui, bien sûr.
Je suis totalement seul, en fait.
Est-ce que vous aviez noté, il m'est arrivé de donner à l'antenne plusieurs fois le nom de l'association qui s'appelle SOS Répit?
Non.
Justement pour les gens comme vous, pour les aidants?
Non.
Ça permet aux
aidants
si.
Je l'ai entendu peut-être sur votre antenne ou autre part, mais oui, je m'en rappelle maintenant, oui.
Parce que ça me paraît très intéressant pour vous. Il y a deux associations qui me viennent à l'esprit. Il y a aussi la Maison des Aidants, qui ont un site avec beaucoup d'informations pratiques, lamaisondesaidants.com. Parce que pour vous aider à sortir de cette solitude-là, parce que vous êtes très 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 nombreux dans cette situation-là, quand on se retrouve à aider une maman, un papa, on vit un peu en vase clos. Et on s'enferme dans une solitude qui est lourde, qui est difficile.
Et je vais vous dire juste un truc, c'est tout bête, hein, mais bon, ça me flingue. À longueur de journée, c'est que ma sœur qui est elle avec son mari, avec ses enfants me rabâche à longueur de journée que je devrais retourner travailler. Et moi, ça me fout en l'air.
Pourquoi ?
Bah, ça me fout en l'air parce que j'aimerais bien retourner travailler, mais bon, si je suis pas là, ma mère, elle peut plus, enfin la maison, ça serait un champ de ruines, quoi.
Et votre père dans cette histoire, quel est son rôle?
Mon père c'est un militaire de carrière. Un militaire de carrière qui, quand il était jeune et enfant, a toujours eu une femme de ménage à la maison. Quand il était adulte, a eu maman.
Oui.
Et donc,
c'est pas un monsieur qui prend les choses en main, quoi.
Exactement, tout à fait. Oui.
Donc vous ne pouvez pas vous reposer sur lui non plus.
Je me repose sur lui, sur certaines choses, mais certainement pas sur le ménage. Ça, c'est pas possible. Sur le ménage, sur l'entretien de la maison, c'est pas possible. Mais moi, j'en veux à ma sœur. Je vous jure, Sabine, j'en veux à ma sœur.
Pourquoi ? Parce qu'elle vous comprend pas ? Parce qu'elle vous soutient pas ?
Exactement. Parce qu'elle veut que je retourne au boulot alors que maman a besoin de nous. Alors elle habite à je sais plus, 5-6 kilomètres, peut-être 10 kilomètres de la maison. Je comprends qu'elle est sa famille, machin. Il n'y a pas de souci. Mais qu'elle ne m'en tienne pas rigueur. Hein, que c'est elle a sa vie, moi j'ai la mienne, et j'ai la mienne avec mes parents. Je vais vous dire, Sabine, mes grands-parents, ils ont vécu avec mon oncle jusqu'à sa mort, à mon oncle, hein, qui était pas lourdement handicapé, mais handicapé, il était malentendant. Hein. Et il a vécu toute sa vie avec mes grands-parents et il a terminé sa vie avec mes grands-parents.
Pour vous, c'est une valeur importante de s'occuper des anciens ou des gens qui ont un handicap ou une maladie ?
Ouais. Mais bien sûr. Mais c'est indispensable.
Et c'est vrai que dans certaines sociétés, notamment en Afrique et en Asie, c'est quelque chose de beaucoup plus évident que chez nous.
Oui, tout à fait, oui. Oui. Surtout en Asie, oui. Oui,
il y a un respect pour les anciens qu'on ne nous a pas forcément inculqué, nous.
Et moi, de temps en temps, alors je lui dirais jamais, hein, mais vraiment jamais, parce que bon, je l'aime tellement que je pourrais pas faire ça. Mais je voudrais dire à ma sœur, mais ferme ta et laisse-moi être avec nos parents, hein. Et toi, tu t'occupes des tiens, mais ne me fais pas la leçon, quoi.
Et pourquoi vous lui dites pas? Ça vous
Parce
ferait,
que
ça
c'est
vous ferait
ma.
peut-être, mais ça vous ferait peut-être du bien, Frédéric. Non, mais sans être
Mais non,
méchant.
mais
Et alors?
c'est mon aîné, c'est mon aîné.
Et alors, vous avez quand même le droit de vous exprimer, de dire les choses.
Oui, non, mais j'ai pas envie de me sentir mal avec ma sœur, et puis j'ai pas envie d'être en. Imaginez si jamais je suis en bisbille avec ma sœur, ce sera la même chose avec mes parents, hein, parce que la sœur va le dire aux parents, et puis ça va partir en cacahuète, hein. Donc non, c'est
Oui, mais en attendant, c'est vous qui partez en cacahuète, Frédéric, si je peux me permettre, à force
mais je sais.
de pas dire les choses. Ça fait
Je
une fois
sais
de plus,
bien, mais bon.
on en revient à ce que je disais juste avant, dire les choses, mettre des mots, c'est important. Hein? Et à ce propos, j'aimerais juste faire un comment on appelle ça, petit rectificatif, parce que beaucoup d'auditeurs nous envoient des SMS en disant oui, il est déjà passé plein de fois, on l'a déjà entendu, on connaît son histoire. Oui, on le sait, Frédéric l'a dit, il appelait ce soir parce qu'il se sentait seul. Et la Libre Antenne, c'est aussi là pour ça. Et oui, certaines personnes appellent plusieurs fois parce qu'elles en ont besoin, et je pense que justement, on est là pour leur faire du bien et qu'il n'y a aucun mal à ça. Voilà, petit rappel, hein, Frédéric.
Ça marche.
On sait que vous
Et
avez appelé, mais
je.
si vous avez besoin de parler, je suis aussi là pour vous.
Ça marche. Mais j'ai pas envie non plus de voir un psy. J'ai une assistante sociale que je vois une fois tous les 4 mois. Je me sens. Après ça, je me sens bien. Mais bon, c'est. C'était juste par rapport à ça. Maman, elle a besoin de quelque chose. J'aimerais lui apporter. Et là, y a le département qui veut pas, quoi. Qui veut pas faire juste un petit geste, machin.
Oui, mais vous l'avez dit vous-même, il y a des conditions à remplir. Si pour les médecins et les professionnels, elle ne remplit pas ces conditions-là, vous n'y pouvez rien. Ça, malheureusement, à moins de demander
Oui,
un
mais bon.
autre avis à un médecin de famille, quelqu'un qui pourrait vous appuyer.
Ah oui, non, mais je vais faire tout ce qu'il faut.
Oui, ça j'imagine bien. En
Ça, je vais faire tout
attendant,
ce qu'il
ce qui
faut.
me paraît important, Frédéric, c'est que vous restiez vous-même. Si vous êtes bien dans cette relation avec votre maman, si pour vous c'est important qu'elle puisse rester à la maison, de prendre soin d'elle, eh bien vous avez le droit. C'est pas aux autres de vous dicter votre comportement.
Ah, merci. Merci, Sabine. Merci de me dire ça. Merci de me dire ça.
Prenez votre place.
Ça me fait tellement plaisir que vous me disiez ça, quoi. Ça me fait tellement plaisir.
Mais c'est juste tellement vrai.
J'en avais vraiment besoin.
Bon.
Parce que tout le monde me dit tu devrais avoir t'as 41 ans, tu devrais avoir ton appart, tu devrais avoir tout machin. Non, non, moi ce que je veux, c'est être près de maman, quoi.
Alors soyez vous-même, Frédéric. Soyez vous-même. Avec toutes vos qualités, avec toute cette lumière à l'intérieur de vous pour cette maman, soyez vous. D'accord?
Merci. Merci, Sabine.
Je vous embrasse.
Moi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Et c'est Laurent que j'accueille maintenant. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir, Sabine.
Soyez le bienvenu, Laurent.
Merci beaucoup. Alors, je découvre, je suis un néophyte, là, je découvre votre émission.
Oui.
Je suis un petit peu volage au niveau des radios et je suis ravi de ce que j'entends ce soir, de ce que j'écoute, de la sensibilité qui se dégage et donc ça m'a donné envie de venir m'exprimer parce que je viens de rompre avec une personne formidable et qui, elle, est sujette à l'alcoolisme. Et donc, on a passé 2 semaines super intéressantes, super agréables, une personne très douce. la femme avec un grand F pour moi. J'ai 52 ans et une personne que j'ai rencontrée sans la chercher, on va dire.
Pardon Laurent, je vous perds un peu.
Vous m'entendez? Ah, c'est voilà. Au niveau du son?
Là, oui, c'est ça, c'est beaucoup mieux là.
Alors, je me déplace dans mon appartement. Comme ça. Alors, donc, c'est parfait. Une personne que j'ai trouvée sans la chercher, on va dire, le hasard des rencontres. Ouais. Et puis, en fait, on a passé deux semaines, enfin, plusieurs jours, des moments vraiment adorables, plein de points convergents au niveau de l'intérêt, au niveau de l'humanité, de l'empathie, etc., des goûts d'empathie. Et puis, à un moment donné, à l'issue d'une journée balade dans les bois, eh bien, elle a eu besoin d'aller acheter de l'alcool. Puis elle venait de se confier à ce moment-là sur un problème d'alcool, mais elle ne s'y était pas adonnée pendant ma présence.
Avec vous, vous n'aviez pas repéré ça tout seul, en fait?
Non, absolument. Non. Enfin, si j'avais, au bout d'un moment, je m'en étais rendu compte, mais elle était abstinente, voilà, pendant un moment. Et moi, je pensais qu'elle tenait des questions d'abstinence de long terme, mais finalement, j'ai vu que c'était encore très, très fragile. Et je suis très intéressé par tout ce qui est psychologie, sur l'humain en général, mais j'avoue que là, moi, je ne bois plus d'alcool depuis un an, mais je n'étais pas alcoolique, c'est simplement un choix de vie.
Ouais.
Parce que j'ai eu un épisode de deux soirs où le lendemain, je me suis rendu compte que tout peut basculer pour une bêtise alcoolique. Et j'ai absolument pas eu de manque, et c'est un mode de vie que j'ai choisi, donc c'est pas exactement la même configuration. Et je ne sais pas ce qu'éprouvent les gens qui ont ce manque alcoolique, au point de, en un moment où on est vraiment en harmonie, où ils sont.
On vous entend très très mal, Laurent. Je ne sais pas si vous bougez quand vous parlez.
Non, ben, là je suis sous une fenêtre de toit, je ne bouge plus. Vous m'entendez bien?
Oui, ce n'est pas la liaison, c'est qu'en fait, on a l'impression que vous éloignez le combiné de la bouche quand vous parlez.
Ah, peut-être.
C'est plus
peut-être.
Ça. Et donc, je n'ai pas,
je tout, vais faire
j'ai, attention. J'ai pas le forfait avec tous les mots, là, j'en ai un sur deux.
D'accord. Donc, ce que je peux souvent apporter de l'aide à des amis en détresse.
Oui.
Pour des problèmes d'anxiété, problèmes de traumatisme, un petit peu comme vous le faites d'ailleurs avec vraiment beaucoup de talent ce soir. J'entends des gens qui se livrent, qui vous avez même beaucoup aidé, je trouve, cette dame-là qui a subi un viol et vous avez trouvé les mots justes. Mais par contre, moi je suis démuni avec cette personne avec laquelle j'ai coupé une relation amoureuse, sans vouloir la laisser au niveau amitié, si vous voulez, parce que j'ai envie qu'elle s'en sorte, mais je me demande. Quel point, comment font les gens qui veulent vraiment arrêter l'alcool? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que vous avez déjà eu des auditeurs qui ont parlé de ce problème?
C'est un sujet qu'on aborde très souvent. Le problème, c'est que c'est compliqué de parler de quelqu'un sans parler avec quelqu'un.
Oui.
C'est-à-dire,
oui.
Je ne connais pas. Si j'ai bien compris, cette femme, vous la connaissiez très peu finalement.
Enfin, je la connaissais, vous savez, avec les réseaux sociaux, on connaît des gens à distance. Et puis là, il se trouve que par le hasard, je passais dans sa ville. Et puis finalement, on s'est rencontrés, on s'est beaucoup plu, on a eu un espèce de coup de foudre. Et en fait, c'est juste cette addiction qui pose problème parce que ça, dans ces cas-là, c'est excessif. Et puis, comme on dit familièrement, elle déconne dans ces cas-là, quoi.
Là, bien sûr.
La même personne. Moi, j'ai grandi dans des cafés. J'ai vu au fil des ans, des personnes se détruire à vitesse grand V. J'ai vu quelques personnes s'en sortir. Donc, j'ai juste ce regard-là. Par contre, je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Je ne sais pas si je peux l'aider. Je ne sais pas quoi faire.
Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, est-ce que vous lui avez demandé si elle est suivie par un addict?
Alors, elle est suivie par un psychologue, effectivement. Elle parle de ce problème d'addiction.
Oui.
Elle en est consciente, et pour avoir déjà discuté avec des personnes, des amis par contre, en leur ayant dit amicalement, écoute, je pense que tu as vraiment un ennemi, c'est l'alcool. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Elle est absolument preneuse.
D'accord, donc elle ne cherche pas à fuir cette réalité-là.
Non, elle est très, très lucide par rapport
d'accord,
à ça.
Donc ça, c'est déjà bien.
C'est quelqu'un qui a un esprit sportif, donc c'est ce qui me donne espoir pour elle.
Oui.
Je me dis que les gens qui ont l'habitude de sentir l'effort et le goût de l'effort, peut-être c'est un plus.
Ce qui serait intéressant de comprendre, c'est de la faire parler un petit peu de son histoire de vie et de comprendre quel est le vide qu'elle essaie de remplir avec de l'alcool.
Oui, c'est bien ce qu'il me semble, hein, que c'est le cas des personnes qui trouvent là un anxiolytique pervers, puisque c'est un faux ami dont l'occurrence, quoi.
Ça peut être, oui, ça peut tout à fait être une façon de se noyer elle-même pour oublier quelque chose, de chercher à remplir un vide qui vient probablement de quelque chose d'enfoui il y a longtemps, de l'enfance. Est-ce qu'elle vous a parlé un petit peu de sa vie à elle, de son parcours?
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des choses violentes ou difficiles?
Oui, il y a eu des questions difficiles. Un papa qui est décédé très tôt, elle était enfant. Mmh. Pratiquement pas connu son papa. Sa maman est décédée
Vous bougez, voilà. Je ne vous entends plus.
Ah, là, vous m'entendez, là?
Oui, ça y est, super, merci.
Voilà, elle n'a plus ni son papa ni sa maman. C'est une personne qui a la quarantaine. Je sais que ça lui a fait beaucoup de peine. Et puis, peut-être aussi... des difficultés parce qu'il y a eu un reclassement professionnel dans sa vie et le repart à zéro. Et
oui, il y a pas mal de nœuds, quoi, en fait, dans son histoire.
Oui, il y a pas mal de nœuds, oui.
Qu'est-ce qui fait que vous l'avez quittée? C'est la peur de ne pas pouvoir assumer son comportement à elle quand elle boit?
C'est-à-dire que je quitte l'alcool qui l'habite quand elle... Je ne peux rien faire pour elle quand je suis avec elle pour ça. Je lui dis, écoute, il faut que tu t'en sortes, quoi. Je me voyais pas rester... De toute façon, je vis chez moi. Je vis pas chez elle, j'allais la voir. J'ai trouvé ce réflexe de lui dire que c'était pas possible, quoi. Mais je ne sais pas si c'est l'âge de ma part, parce que c'est une personne qui compte pour moi.
C'est ça qui me surprend dans votre démarche. D'un côté, vous la quittez, oui. Et de l'autre, vous m'appelez en me disant comment je peux faire pour l'aider.
Oui, alors est-ce que justement, je la quitte, mais finalement, je ne la vois plus, on va dire. C'est plutôt ça, parce que je lui envoie des mots. Chaque jour, je lui dis, écoute, bats-toi, je veux que tu choisisses la vie. Et puis, il me semble comme une priorité qu'elle prenne soin d'elle, et qu'elle s'en sorte, parce que elle n'est plus elle-même quand elle a bu, et cette personne-là, c'est cette personne-là que je ne peux pas côtoyer, puisque je ne lui cite d'aucune utilité. Et en plus, elle-même, ah oui, pour rebondir sur la discussion qu'on a pu avoir, elle m'a dit le lendemain de cet excès, elle m'a dit, eh ben, elle a pleuré, ça m'a beaucoup touché. J'ai vu que là, c'est une personne sincère et qu'elle était consciente de son problème. Elle m'a dit, c'est comme si je voulais pas de ce bonheur, je m'autorise pas le droit
c'est
à
ça,
être heureux.
Il y a une part d'autodestruction en fait dans l'alcoolisme, très souvent. Et c'est pour ça que je parlais de traumatisme enfoui, c'est qu'il y a probablement une partie d'elle qui ne s'autorise pas à être heureuse et qui va détruire tout bonheur naissant.
Oui, c'est ça, une autodestruction. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de têtes de mort chez elle. Et autant je trouve ça au niveau artistique intéressant, au niveau symbolique, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas des têtes de vie, finalement?
Non, mais il y a des blessures, bien sûr, derrière cette histoire-là, on sent qu'il y a des choses qui sont très douloureuses, mais ça, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de le porter, et vous n'allez pas pouvoir l'aider non plus, vous la connaissez depuis très peu de temps, en réalité.
Donc, en vérité, oui.
La seule chose, effectivement, comment est-ce qu'elle a réagi quand vous avez commencé à prendre de vos distances?
En fait, lorsque elle m'a demandé de, elle m'a dit, je préfère être seule ce dimanche, alors que je devais passer le dimanche avec elle. Mais en fait, je sentais que c'était comme la fois d'avant, qu'elle avait ce besoin qui la cherchait et qu'elle voulait pas boire devant moi. En fait, moi, je m'en veux par rapport à ça, parce que par moments, j'ai des blocages et je ne sais pas dire les choses. Elles me viennent après, comme elles me viennent. Et en l'occurrence, j'aurais dû lui dire, mais dis-moi si tu veux que je parte simplement, parce que tu as envie tu as besoin encore de boire et que tu ne veux pas que je te voie, parce que ça me semble une erreur, quoi, finalement, sans être spectateur, mais au moins qu'elle me le dise. Elle me l'a dit après coup.
C'est très très rare, vous savez, quelqu'un qui est alcoolique et qui dit clairement je vais me cacher pour boire, ça n'existe pas.
Alors je me suis dit que peut-être avec sa lucidité sur son état d'alcoolisme, peut-être que j'aurais dû lui tendre la perche à ce moment-là. Mais j'étais peut-être encore incertain, je me disais est-ce que vraiment elle a besoin d'être seule ? Je me suis rendu compte après dans les échanges que les choses ne se passaient pas de façon habituelle, et là j'ai senti, j'en suis quasiment certain, que c'était à cause de l'alcool, quoi. Il n'y avait pas d'autre raison. Et finalement c'est elle qui m'a mis à l'écart pour prendre la bouteille. Et c'est pas vraiment que je l'ai quittée, c'est que je me suis mis à ces constatations et je lui ai dit que c'est un gros problème.
Il n'y a pas de place pour vous deux, il n'y a pas de place pour la bouteille et vous, quoi.
C'est ça. Et pourtant, c'est dommage parce que moi, je ne fume pas. Je ne bois pas. Même si je ne buvais pas d'alcool à l'état d'alcoolique, je buvais peut-être 2-3 verres de bière par semaine ou le jour, c'est très, très rare. Et j'ai de rares occasions des excès qui m'ont fait réfléchir, des courts excès. C'était très bien, elle reconnaissait que c'était très bien en fait de me connaître et du fait que moi je ne pouvais pas la tenter avec ça, ni même avec d'autres choses.
Mais Laurent, que je comprenne bien là aujourd'hui, oui. Parce qu'en fait c'est une relation qui n'est pas une ancienne relation, c'est pas quelque chose qui vous blesse profondément. Qu'est-ce que vous
J'en suis un peu malheureux quand même, parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens en général, et cette personne en laquelle j'ai trouvé beaucoup d'humanité, beaucoup de gentillesse, de douceur, vraiment, une personne qui a en plus un potentiel, et ça me fait mal de voir des gens se saboter.
Alors c'est à vous de vous positionner là où vous avez envie d'être. C'est-à-dire, je sais pas à quelle distance vous avez envie d'être d'elle, à quelle distance d'elle vous avez envie d'être.
Moi, je pense que je vais garder un lien
amical.
Amical. C'est compliqué parce qu'avoir des sentiments pour cette personne, elle m'a aussi dit qu'elle avait beaucoup.
Oui, vous avez quand même dit coup de foudre tout à l'heure. C'est pas rien quand on dit ça.
Oui, c'est pas rien parce que
à l'âge adulte, quand on dit coup de foudre, c'est quand même qu'il y a eu quelque chose.
Surtout à 50 ans, c'est vrai qu'on n'a plus des enfants. C'était pas une histoire pour s'amuser. On a senti qu'on avait dans les discussions pas forcément les mêmes choses, mais un intérêt pour ce que disait l'autre. Et puis trouver intéressante la personne, pouvoir.
Oui, j'ai bien compris. Il s'est passé quelque chose en tout cas. Et est-ce que vous pourriez pas envisager de pas de l'accompagner, mais quelque part de lui dire, écoute, voilà, on peut peut-être se dire qu'il y a un bout de chemin à faire probablement ensemble, mais j'aimerais vraiment d'abord que tu te soignes.
Eh bien, écoutez, vous enlevez un petit peu ce nuage de fumée qui était dans ma tête, et je me dis que c'est
à l'instant... Je vous entends
peut-être
plus.
C'est peut-être certainement la voie intéressante à suivre, à lui suggérer que je ne coupe pas les ponts, mais si je peux faire quelque chose et rester en contact bienveillant, que ça serait intéressant.
Oui, parce que j'entends coup de foudre, j'entends personne intéressante. J'entends que vous prenez le temps ce soir d'appeler pour parler d'elle, ça veut dire quand même qu'elle a pris une place quelque part dans votre vie. Donc que vous preniez du recul par rapport à ça, je peux le comprendre, mais peut-être que vous pouvez ne pas fermer toutes les portes et lui dire, voilà, je pense que si on a un chemin à faire ensemble, il faut d'abord que tu fasses ton chemin à toi pour te soigner sur ça. Aller aux alcooliques anonymes, se faire soigner par des médicaments, voir effectivement un thérapeute. Et si tu fais ce chemin-là, eh bien moi, peut-être qu'on se retrouvera dans X temps, sur un terrain plus amoureux à nouveau.
Ça peut motiver aussi la personne.
Ça peut l'aider, tout à fait.
Voilà, vu ce qu'elle m'a exprimé.
Parce qu'il me semble que si vous n'en aviez rien à faire, vous ne seriez pas en train de me parler d'elle là ce soir.
Bah bien sûr, j'avais justement ces pensées. J'ai tourné le bouton de la radio sur votre station que je découvre, votre émission ce soir, et il n'y a pas de hasard dans la vie.
Non, j'allais le dire.
Voilà.
Bon, bah Laurent, en tout cas, notre émission va se terminer tout doucement. J'espère
en tout
que
cas,
les choses
vous avez
sont
gagné un auditeur.
Ah bah, j'en suis ravie. Soyez le bienvenu dans cette grande famille qui est la Libre Antenne. Et j'espère, comme vous dites, que le voile de fumée se dégage un peu et que les choses sont un petit peu plus claires dans votre esprit.
Vous m'avez aidé, merci.
Je vous embrasse. Et donnez-moi de vos nouvelles
à tous.
Et de ces nouvelles à elle dans quelques temps, d'accord ?
Entendu.
Avec grand plaisir. Je vous embrasse,
merci.
Laurent.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Je vous embrasse aussi.
Et notre émission se termine en douceur. Merci bien sûr, comme chaque soir, à tous ceux qui sont venus prendre la parole. Tous ceux qui, en toute sincérité, sont venus parler de leur vie. Merci à vous tous pour vos SMS qui ont été très nombreux. Je vous retrouverai demain soir avec plaisir à partir de 23h et je vous quitte avec cette citation. Si tu doutais de tes peurs au lieu de douter de tes rêves, imagine tout ce que tu pourrais accomplir. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain soir.